Alors, cette semaine, le cours reprend et nous allons entrer dans le vif des expériences sur l'accès à la conscience, après avoir parlé dans les deux semaines qui précèdent très largement des théories possibles de la conscience, fondées bien sûr sur les expériences passées, très largement psychologiques. J'avais souligné il y a 15 jours qu'on commençait à entrevoir un début de synthèse des idées sur l'accès à la conscience, et que cette synthèse était composée de 4 éléments principaux. L'idée que la conscience intervient comme un système de supervision centrale, l'idée que c'est un système à capacité limitée, qui est obligé de sélectionner un élément particulier pour l'amener à la conscience, alors que beaucoup d'autres restent dans le domaine du traitement non conscient, l'idée que ce système nécessite des boucles lentes, avec un aspect réentrant qui fait circuler l'information et qui la maintient pour une durée suffisante, et qui s'oppose donc à un traitement ascendant très rapide et qui peut être non conscient de l'information. Et finalement, l'idée que la conscience fournit une sorte d'espace de synthèse interne, détaché des contingences extérieures, une sorte de tableau noir ou de théâtre, les métaphores sont multiples, un espace de travail qui permet de partager l'information et qui rend donc l'information accessible. Et on avait terminé le cours sur le modèle que j'ai proposé avec Jean-Pierre Changeux sur la base des travaux antérieurs de Bernard Barthes, le modèle de l'espace de travail neuronal conscient, Global Neuronal Workspace en anglais, dont je rappelle ici quelques-uns des éléments. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que ces cours sont disponibles sur le site web du Collège de France si vous voulez vous y référer. Donc je reviens juste rapidement sur ces éléments des cours précédents. La première idée essentielle de ce modèle, c'est que ce que nous appelons l'accès à la conscience, donc la disponibilité d'une information consciente, c'est simplement la disponibilité de cette information pour être accessible à de nombreux processeurs. C'est ça que nous appelons être conscient d'après ce modèle. C'est tout simplement avoir l'information dans un espace qui permet de la distribuer à n'importe quel processeur cérébral, et donc en particulier de la distribuer aux processeurs verbaux et intentionnels qui nous permettent de la rapporter verbalement. Que cet état d'accès à la conscience correspondrait à l'ignition, l'allumage soudain de réseaux de neurones distribués, formés de neurones à axones très longs, qui permettent donc de mettre en connexion des régions très distantes du cerveau, et que ces neurones, même s'ils sont distribués dans de très nombreuses régions cérébrales, sont particulièrement denses dans le cortex préfrontal et pariétal, formant donc cet espace de travail à l'échelle du cerveau entier. Et l'idée que lorsqu'on accède à une information consciente, on forme une assemblée particulière, réverbérante, au sein de ce système de neurones distribués. Donc il faut imaginer peut-être que 5-10% des neurones de cet espace entrent en activité, que la configuration particulière qui est activée forme un code neural pour l'objet conscient qui est perçu à un instant donné, et que ce code va rester stable pendant peut-être une durée de l'ordre de la centaine de millisecondes ou plus, et ensuite changer vers un autre état conscient. Et que cet état global entraîne avec lui des processeurs perceptifs. On le voit bien sur ce diagramme ici. Il faut imaginer que les processeurs perceptifs pertinents, par exemple celui qui aurait le contenu d'un visage particulier auquel nous faisons attention à un instant donné, vont être mis en connexion avec cet espace global et donc être amplifiés, maintenus en ligne pendant cette période d'accès conscient. Et puis le modèle comprend aussi cet élément intéressant qui est qu'il y a une activité spontanée, et je pense que c'est un point fondamental qui a été souligné évidemment par Jean-Pierre Changeux, également par Alain Berthoz pendant de nombreuses années, c'est qu'à ce niveau, le cerveau opère d'une manière projective, descendante, il n'est pas simplement soumis aux entrées du monde extérieur, mais même en l'absence d'entrées du monde extérieur, il va générer une activité spontanée, structurée, qui va faire s'enchaîner des états conscients. Alors, ce modèle n'est pas simplement une vision théorique ou boxologique, comme je peux le présenter ici. Il a aussi été simulé par des simulations informatiques de réseaux de neurones relativement réalistes. On avait intégré à l'époque dans le modèle des simulations de synapses formées de molécules de récepteurs GABAergiques et glutamatergiques relativement réalistes. Et ces neurones, donc, à des charges plus ou moins réalistes, avec des délais compatibles avec ce qui est connu dans le système visuel du singe en particulier, eh bien, avaient été intégrés dans des colonnes neuronales thalamocorticales organisées sous forme de couches qui reproduisent, au moins d'une façon un petit peu schématique, la connectivité du cortex cérébral. Et on avait essayé de simuler donc une partie de ce modèle de l'espace de travail conscient. Il faut bien être conscient que ça n'est pas possible à l'heure actuelle de simuler à l'échelle de tout le cerveau humain, dans le détail de, chacune des décharges neuronales, l'ensemble de ce processus. Donc on avait sélectionné une sorte de mini-modèle qui consistait en 4 aires cérébrales successives qui commençaient au niveau d'aires cérébrales périphériques. Par exemple, ça pourrait être ici l'aire visuelle primaire dans lequel on peut faire rentrer un stimulus T1 qui connecte de manière ascendante à une aire numéro 2, puis une aire numéro 3, puis une aire numéro 4. Et avec l'idée qu'il y a des connexions ascendantes qui sont fondées sur des récepteurs glutamatergiques rapides en pas, et il y a des connexions descendantes à longue distance, très importantes dans ce modèle, hein, qui permettent d'amplifier l'information et de la rendre disponible, et qui sont fondées donc, sur des récepteurs plus lents. Et vous voyez que l'idée de ce modèle, c'est qu'on peut simuler donc l'entrée dans l'espace de travail global d'un stimulus T1, on peut simuler aussi l'entrée d'un deuxième stimulus T2, on peut simuler la compétition qui va exister au niveau central, donc cet aspect sélectif du traitement de l'information qui fait qu'une information va être sélectionnée au détriment de l'autre, et on avait supposé qu'un stimulus qui devient représenté dans les aires de niveau supérieur, qui crée un état global d'activité, va être rendu disponible à d'autres aires cérébrales qui ne sont pas simulées explicitement ici dans le modèle, mais qui, en quelque sorte, font partie de ce qui est juste au-delà, disons, de la simulation qui est proposée ici. Alors, je voulais juste vous montrer quelques images de ces simulations avant de passer aux données expérimentales, parce que ces simulations, en quelque sorte, vont nous guider, et on va ensuite, dans les 2 semaines ou 3 semaines peut-être qui suivent, aller voir les données expérimentales avec l'idée de tester, en partie, si ce modèle a une certaine réalité. Alors, les premières simulations étaient extrêmement simples. On va stimuler la partie la plus périphérique, donc l'air A1 ici, avec un stimulus extrêmement bref qui va donc dépolariser les neurones ici. On voit qu'il y a un taux de décharge donc bref de ces neurones au niveau de l'assemblée A1 qui code pour le stimulus T1. Et vous voyez que même en réponse à un stimulus extrêmement bref, ce type de réseau va générer une activité extrêmement organisée qui consiste au moins en 2 étapes. Il y a une première étape dans laquelle vous voyez qu'il y a une propagation en avant, feed-forward, de l'activation vers l'air B, vers l'air C, vers l'air D. Et ensuite, il y a une 2e étape, qu'on voit très bien ici, de réverbération de cette information pour une durée assez longue, hein, plusieurs centaines de millisecondes, interrompue simplement parce qu'il y a de l'habituation dans ce réseau, qui est peut-être un petit peu artificiel, mais qui est une manière d'interrompre l'activation. Vous voyez donc que le réseau se met dans un état, après cette période de propagation en avant, se met dans un état réverbérant global qui réactive les aires de départ. Donc on voit très bien ici qu'il y a 2 activations successives, une qui est causée par le stimulus au départ et une qui est, alors que le stimulus a disparu depuis longtemps, simplement parce que la même aire cérébrale rentre dans un état réverbérant impliquant ses connexions à longue distance, et on devine ici, et c'était le cas dans les simulations, qu'il va y avoir des oscillations de haute fréquence causées par cette réverbération de l'activation. Il va y avoir des mises en corrélation à longue distance de régions donc cérébrales distinctes, avec des relations causales qui vont s'établir entre ces différentes régions. Vous voyez que si on présente un 2e stimulus, ici T2, à d'autres entrées sensorielles, un petit peu plus tard, on retrouve exactement le même type de propagation suivie de réverbération, ce qu'on appelle l'ignition. Alors, une première propriété intéressante qu'on avait vue, c'est que si on rapproche maintenant le stimulus T2 du stimulus T1, de sorte que ce stimulus compétiteur est présenté alors que l'ignition au premier stimulus est en train de se produire, mais vous voyez qu'on obtient uniquement le début de la propagation en avant de ce stimulus, mais on n'obtient pas la 2e vague d'activation. C'est normal, puisqu'il y a de l'inhibition latérale très forte ici entre ces assemblées. L'idée, si vous voulez, c'est qu'à ce niveau, il n'est pas possible de maintenir simultanément plusieurs codes en parallèle, et on voit très bien que donc la compétition éteint l'ignition pour le 2e stimulus. Donc, on observe un phénomène qui ressemble un petit peu à celui que vous avez décrit dans le cours précédent, c'est-à-dire le clignement attentionnel, la compétition entre stimuli au niveau central. D'autres simulations montrent que ça peut tout à fait se produire sur une base d'activité spontanée, sans qu'il y ait nécessairement de stimulation extérieure. Donc, ce que vous voyez ici au centre, c'est un état qui ressemble à celui que je vous ai montré auparavant, mais qui survient spontanément dans le système alors qu'il n'y a pas d'entrée sensorielle. Simplement, en réglant le niveau d'éveil corticale dans ce réseau, avec un paramètre qui simule les entrées neuromodulatrices ascendantes vers le cortex cérébral, eh bien, on module l'activité spontanée du système et il se peut tout à fait qu'à certains moments surviennent des patterns de décharge cérébrale qui reproduisent donc un état global pour un stimulus donné à travers plusieurs aires cérébrales très distantes. Alors vous voyez que la différence, c'est que l'activation, cette fois-ci, se propage strictement du haut vers le bas. Il n'y a plus cette phase ascendante qui correspond à l'accès d'une information du monde extérieur, mais ça pourrait correspondre à un état où une information est retrouvée spontanément. Il y a un accès conscient purement interne qui se produit dans le réseau. Et alors, ce que vous montrent les diagrammes autour, c'est ce qui se passe si on présente un stimulus extérieur à ce moment-là au réseau. Donc, on présente le stimulus T2. Et donc, ici, on a l'activation pour un stimulus T1 endogène, et ici on a un stimulus T2 exogène. Si T2 est présenté juste avant ce type d'événement ou juste après ce type d'événement central, eh bien, il peut tout à fait accéder à une représentation globale. Par contre, si T2 est présenté précisément au moment où survient cette ignition globale, eh bien, vous voyez qu'il y a cette compétition centrale et on ne voit que la propagation feed-forward, en avant, et on ne voit pas cet état de réverbération globale. Il peut y avoir compétition centrale soit entre deux stimuli du monde extérieur qui rentrent en collision, soit entre un stimulus du monde extérieur et une représentation interne qui correspondrait à un état mental temporaire du sujet. Et on a pensé avec ce type de simulation qu'on s'approchait, même si c'est évidemment très simplifié et caricatural, d'une situation de ce que les anglophones appellent inattentional blindness, la cécité inattentionnelle, c'est-à-dire le fait que lorsque nous sommes absorbés dans une pensée à un moment donné, nous ne pouvons pas en même temps prendre conscience de certains stimuli du monde extérieur. La dernière propriété que je voudrais vous montrer de ce type de réseau, c'est l'existence d'un seuil pour l'ignition. Jusqu'à présent, les simulations que je vais montrer sont des simulations nettement au-dessus de ce seuil, c'est-à-dire qu'un stimulus isolé, à lui tout seul, parvient à créer cette réverbération globale. Mais qu'est-ce qui se passe si on joue avec la durée du stimulus? Et évidemment, dans ce type de simulation informatique, on peut le faire d'une manière extrêmement digitale. Vous voyez qu'ici, à travers l'espace de l'axe des Y, ici, on a changé la durée d'un stimulus et on a fait plusieurs simulations à chacune de ces différentes durées du stimulus. On voit très bien que la durée du stimulus, évidemment, change la durée de la vague feed-forward, ici. Mais on voit aussi que pour les stimuli les plus courts, il y a très peu de décharge tardive, alors qu'il y a un certain moment, une durée minimale, au-delà de laquelle, eh bien, on voit apparaître ces décharges tardives et cette réverbération. On voit très bien ici qu'il y a un phénomène de seuil qui survient, qui correspond au déclenchement de cette activité réverbérante globale. Et c'est très facile à comprendre, je crois. Vous avez affaire à un réseau qui est connecté à lui-même. Il va y avoir, dans ce type de réseau, dans pratiquement n'importe quelle situation où ce type de réseau est mis en place, un seuil dynamique, un niveau minimal d'activité au-delà duquel vont se déclencher des phénomènes de réverbération qui s'amplifient eux-mêmes et qui vont donc conduire à cette ignition globale. Donc on va avoir un système pratiquement à deux états, hein, et c'est pour ça qu'on parle d'un accès discret ou tout ou rien à la conscience dans ce type de modèle, parce que vous voyez très bien que si on est au-dessus du seuil, le stimulus va pouvoir s'auto-amplifier et on va aller très très vite vers un état hautement activé du réseau tout entier, alors que si le stimulus est juste en dessous du seuil et il peut franchir ce seuil pour des raisons simplement de bruit dans le système, d'activité stochastique, eh bien à ce moment-là, l'activité va plonger et on va se retrouver simplement avec un phénomène extrêmement transient lié à la présence du stimulus lui-même et pas à cette réverbération globale tardive. Alors, l'idée, évidemment, c'est que cette simulation tardive correspond à l'accès à la conscience, possible ou non, d'une information suivant le degré de rapidité avec laquelle elle est présentée. Vous voyez que ce phénomène est exclusivement dépendant des connexions descendantes à longue distance. Si vous enlevez dans ce type de réseau les connexions descendantes à longue distance, le phénomène de réverbération disparaît. Et on observe à ce moment-là uniquement une dépendance de la durée objective du stimulus qui a été présenté. Voilà, donc, idée extrêmement simple, ce type de réseau qui est évidemment d'une simplification énorme hein, par rapport à la complexité du cortex cérébral, reproduit dans sa phénoménologie un certain nombre de phénomènes qui ressemblent au phénomène de masquage avec un seuil bien particulier et au phénomène de clignement attentionnel de compétition centrale. Maintenant, vous voyez que ce type de réseau conduit quand même à faire des distinctions importantes vis-à-vis du non-conscient, et ça c'est quelque chose qu'on avait mis en valeur ici en 2006. Certaines simulations montrent bien qu'un stimulus de bas niveau de force insuffisante, parce qu'il est trop bref, parce qu'il a, il n'a pas une, une intensité suffisante, ne va pas pouvoir activer l'ensemble du réseau global. D'autres stimuli, qu'on appellera préconscients, vont avoir une force suffisante potentielle, ça correspondrait à mon stimulus T2 dans les simulations de tout à l'heure, mais ne va pas pouvoir activer l'état global pour une raison différente, c'est qu'il entre en compétition à un moment donné avec une autre représentation qui a déjà envahi cet espace global. Alors on est conduit très simplement à faire une distinction ici entre deux états au sein du non-conscient, des états qu'on appellera subliminaux parce que le stimulus ne parvient pas à la conscience pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'il n'a pas une force suffisante à lui tout seul, et d'autres états qu'on appellera préconscients parce qu'il pourrait être conscient, le stimulus a une force suffisante pour accéder à la conscience, mais c'est pour des raisons de compétition avec d'autres stimuli ou d'autres pensées présentes au même moment que l'accès ne va pas se produire. On verra par la suite du cours si cette distinction est une réalité, mais c'est une distinction, disons, qui est proposée en théorie. Alors, cette semaine, on va se concentrer donc sur ces états subliminaux, correspondant à la suite du cours de l'an dernier. On avait vu l'an dernier qu'il était possible de présenter des stimuli avec une durée extrêmement contrôlée par le phénomène de masquage et que dans ces conditions, on arrivait à produire des stimuli qui n'accédaient pas à la conscience du sujet, même s'ils continuaient à avoir un effet sur le système cognitif. Je vous rappelle donc la définition du masquage, d'après Breitmeyer et Hogman, c'est la réduction de la visibilité d'un stimulus présenté brièvement, qu'on appellera la cible, par un second stimulus, également bref et adjacent dans l'espace et dans le temps. Voici des exemples de masquage bien connus. Si vous présentez un disque noir et quelques dizaines de millisecondes après vous présentez un anneau noir avec le même disque blanc, eh bien vous pouvez tout à fait perdre conscience de la présence de ce disque noir. Tout ce que vous voyez, c'est la présence de l'anneau noir et au centre, vous ne voyez que du blanc ou en tout cas un gris extrêmement dégradé, pas du tout le noir effectif, objectif de la cible. De la même manière, si vous présentez un X et qu'il est suivi soit de bruit visuel, soit de traits aléatoires qui reproduisent en partie la structure du stimulus, eh bien, lorsque les conditions sont bien ajustées, il se peut tout à fait que ces stimuli deviennent invisibles. Là, je vous réfère au cours de l'an dernier pour le détail de ce type de masquage. Alors, ce qu'on va voir dans le cours aujourd'hui, c'est que ces conditions de stimulation ont été utilisées pour produire des contrastes minimaux, comme je l'expliquais dans le premier cours, des contrastes minimaux où on va essayer d'avoir une situation où le sujet prend conscience du stimulus et une autre situation où le sujet ne prend pas conscience du stimulus. Donc, on va essayer de se placer proche du seuil, juste en dessous, juste au-dessus du seuil, de manière à créer ce type de contraste. Et dans le cours d'aujourd'hui, j'ai choisi un certain nombre d'expériences qui ont très largement fait appel à l'IRM fonctionnel et qui ont essayé de regarder les réseaux cérébraux qui changent d'activité en fonction de la conscience ou non du stimulus. Alors, le premier exemple, j'ai essayé de faire ça aussi dans une perspective un tout petit peu historique, et ces expériences sont assez récentes. Et la première expérience à ma connaissance qui a utilisé l'IRM fonctionnel dans ces conditions est celle de Kalanit Grill-Spector avec Rafi Malak en 2000 dans Nature Neuroscience. Ils ont fait une expérience extrêmement simple, paramétrique, qui consistait à présenter des images pendant des durées variables qui étaient au-dessus ou en dessous du seuil de masquage. Donc, vous voyez qu'ici, une image à 500 millisecondes est très facile à percevoir. Et si on présente un bruit pendant la même durée, on va percevoir le bruit, pas l'image, évidemment. Si on raccourcit maintenant l'image et qu'on remplit l'autre moitié de cette durée de 500 millisecondes par du bruit, ici, à 120 millisecondes, on va encore percevoir l'image. À 40 millisecondes, on va être pratiquement au seuil. À 20 millisecondes, le sujet dit qu'il n'arrive pas à voir l'image et on peut montrer qu'il n'arrive pas, par exemple, à choisir parmi deux images possibles, laquelle a été présentée. Et à chaque fois, l'expérience de Kalanit-Grill-Spector consiste à soustraire cette condition où une image est présente d'une condition où du bruit est présent au moment où il aurait fallu présenter l'image. Donc on a image présente versus image absente à différents degrés de masquage. C'est une expérience qui est quand même relativement limitée. L'imagerie à l'époque était fondée sur des antennes locales et l'étude est donc exclusivement centré sur les régions occipitales du cerveau, les régions visuelles précoces, et on ne saura pas quelle est l'activation du reste du cerveau dans cette étude. Le paradigme est également particulier parce que pour optimiser les choses, il présente les images en bloc, avec 28 images présentées pendant un bloc de 14 secondes qui sont toutes de la même durée. Alors vous voyez que ça pose un problème particulier parce que ça ne permet pas de distinguer ce qui est entièrement dû au stimulus de ce qui est dû éventuellement au changement de l'attention du sujet qui peut tout à fait s'apercevoir que dans ce bloc particulier, les images sont difficiles à voir, donc je vais faire un effort d'attention particulier. Donc il faut garder ça en tête, cette première expérience présente des limites, et la troisième limite, c'est qu'il n'y a pas de mesure essai par essai de la conscience du sujet. On s'appuie simplement sur des courbes moyennes que vous voyez ici. L'une de ces courbes, je crois que c'est celle qui est en noir, c'est la courbe du pourcentage de reconnaissance des images par les sujets en fonction de la durée de présentation des images. Vous voyez que la reconnaissance augmente évidemment de façon très non linéaire, avec une sorte de seuil qui est tout à fait caractéristique. Et leur analyse a consisté à regarder région par région quelles étaient les activations cérébrales qui corrélaient ou qui ne corrélaient pas avec le stimulus. Et que le premier phénomène qui est extrêmement clair, c'est que l'aire visuelle primaire, ici, V1, ne corrèle pas bien avec la perception du sujet, mais corrèle avec la présence effective de l'image. Et qu'à chaque fois qu'il y a une image, ici c'est la soustraction de l'activation à l'image par rapport à la situation où il n'y a que le masque, et bien vous voyez que dès qu'il y a une image même extrêmement courte, le cortex visuel primaire ici est capable de répondre de façon assez forte et pas du tout avec la même courbe que le jugement perceptif des sujets. Donc on a une situation de dissociation, on peut dire ici que le cortex visuel primaire voit mieux, entre guillemets, que ce que rapporte le sujet, et donc le cortex primaire n'est pas un corrélat approprié de la conscience du sujet. Et par contre, il y a d'autres régions qui corrèlent extrêmement étroitement avec la courbe de perception des sujets, et c'est le cas notamment de la région LO, ici, cortex latéral occipital, qui est une région donc plus avancée du cortex occipital, qui s'intéresse au codage de la forme, qui commence à présenter des propriétés d'invariance de la forme, et qui, elle, a l'air d'avoir un seuil tout à fait corrélé avec la perception subjective. Donc, une première idée très simple, les aires primaires n'ont pas le profil de réponse subjective approprié pour être des corrélats de la conscience. Il faut aller plus loin dans le traitement de l'information pour commencer à trouver des corrélats de la conscience. Mais cette expérience limitée au cortex occipital ne permet pas de dire qu'est-ce qui se passe dans les aires encore plus avancées au-delà du cortex occipital. Alors ici, donc une année plus tard, nous faisions au laboratoire une expérience similaire mais permettant de visualiser le cerveau tout entier, fondée sur le masquage des mots, avec comme collaborateur en particulier Lionel Nakache, qui joue un rôle très important dans ses recherches sur la conscience. Vous voyez que l'idée, c'était de créer une situation où on allait présenter des mots pendant une durée extrêmement brève, 29 millisecondes à chaque fois, mais dans un contexte où ils allaient être soit masqués, soit démasqués. Alors, le sujet voyait en permanence des formes, des carrés, des cercles, des losanges clignoter sur l'écran, pratiquement tous les 50 millisecondes, 71 millisecondes, ça changeait de clignotement comme ça, et de temps en temps, il y avait un épisode où on allait avoir blanc, mot, blanc. Alors lorsque vous avez un épisode de ce type-là, le sujet est tout à fait capable de percevoir la présence du mot. Par contre, si vous avez blanc, masque, mot, masque, blanc, à ce moment-là, vous êtes dans un contexte de masquage très fort, vous voyez que les masques sont juste avant et juste après le mot, et dans ce cas-là, le masquage interrompt la perception du mot et le sujet ne rapporte pas avoir perçu la présence d'un mot. Effectivement, je regrette parce que j'avais à l'époque une démonstration assez belle de cette expérience et vraiment, vous êtes exposé à ces stimuli. Tout le monde rapporte le même phénomène, c'est-à-dire qu'on voit très bien ces mots-là, on ne voit pas du tout ces mots-là. Alors évidemment, le contexte est assez différent. Vous voyez qu'on a quand même essayé de contrôler la luminance totale et il y a juste un petit changement d'ordre ici des conditions qui créent ou qui ne créent pas le masquage. Et pour essayer de rendre les choses encore plus comparables, on avait introduit des conditions dans lesquelles à la place du mot, il y a un blanc. Et l'imagerie consistait à faire la soustraction de l'activation évoquée par les essais où le mot est présent avec les essais où le mot est absent. Donc c'est une soustraction bien contrôlée, en quelque sorte, qui soustrait les effets du masque. On ne voit plus les activations causées par les masques, on ne voit que les activations causées par la présence du mot, suivant qu'il est conscient ou suivant qu'il n'est pas conscient. Voilà. Néanmoins, si on veut critiquer, il faut bien reconnaître qu'il reste une différence de stimulus assez importante entre ces conditions, hein. Et que ça n'est pas si facile que ça de créer des stimulations les plus identiques possibles. Ici, elles sont quand même assez différentes, et c'est par soustraction qu'on espère visualiser l'activation au même mot, suivant qu'il est conscient ou pas. Bien. Par ailleurs, il y avait une deuxième critique qu'on peut faire, rétrospectivement, c'est que nous n'avions pas de mesure, au moment où l'activation se produit, de la conscience ou non du sujet. Nous avions une mesure globale à travers toute l'expérience en supposant que tous ces essais-là sont non conscients et que tous ces essais-là sont conscients. Alors, évidemment, on le vérifiait à la fin de l'expérience. Et la vérification était quand même assez exhaustive, et je vous la livre ici. D'abord, les sujets, si on leur demandait à la fin de l'expérience, en revoyant ces stimuli, de cliquer à chaque fois qu'il y a un mot, ne cliquaient pratiquement que lors des mots visibles, et pas lors des mots masqués, et pas quand il y avait des blancs seuls. Si on leur demandait de nommer tous les mots qu'ils voient, ils nommaient convenablement les mots qui étaient dits dans la condition visible ici, et pas les mots masqués. Si on testait ensuite leur mémoire de ces mots, alors l'expérience était un petit peu particulière parce qu'il y avait 40 mots qui étaient choisis pour être dans ces conditions-là et 40 mots qui étaient choisis pour être dans cette condition-là. Et ensuite, ils étaient présentés de façon répétée. Et donc, à la fin de l'expérience, le sujet avait une très bonne mémoire des mots qui avaient été présentés dans la condition visible et il n'avait aucune mémoire des mots qui avaient été présentés dans la condition invisible par rapport à des mots distracteurs qui n'avaient jamais été présentés au cours de l'expérience. Et donc, on avait quand même une bonne preuve que ces mots n'étaient pas entrés dans une chaîne de traitement de haut niveau. Et enfin, si on demandait au sujet de choisir parmi deux mots possibles lequel était présenté ici dans la condition masquée, vous voyez qu'il restait tout à fait au niveau du hasard, qui est 50%. Donc, on avait un certain nombre de preuves qu'on avait créé une condition qui était vraiment invisible. Mais on était obligé de supposer que c'était le cas à chaque essai, sans le vérifier. Alors, les résultats de cette expérience, vous les avez déjà montrés, je vous les remontre ici. Plusieurs phénomènes étaient tout à fait visibles. Le premier, une activation non consciente de l'aire de la forme visuelle des mots, une région donc qui est impliquée dans le codage orthographique, qui s'active de façon non consciente, on le voit bien ici, mais qui s'active massivement plus dans la condition consciente. Même durée de stimulus, mais clairement un traitement supplémentaire, peut-être réverbérant, ça pourrait correspondre à l'intégrale de l'activation qu'on a vue dans les simulations du modèle, qui crée donc cette amplification d'activation. Vous voyez aussi qu'on a beaucoup de régions supplémentaires qui s'ajoutent dans les cortex préfrontaux, cortex pariétal inférieur ici, cortex de la ligne médiane, l'aire motrice supplémentaire et un peu plus en avant dans le cortex singulaire. Et un phénomène qu'on avait montré, c'est que cette région donc commune, qui s'active aussi bien dans la condition subliminale que dans la condition consciente, eh bien, dans la condition consciente, elle est corrélée dans son activité avec un certain nombre de ces régions très antérieures, notamment du cortex frontal inférieur gauche. Donc, il y a un surcroît de corrélation, il y a mise en place de réseaux corrélés à longue distance dans le cas conscient, pas dans le cas non conscient. Voilà. Tous ces phénomènes sont des marqueurs possibles de l'accès à la conscience. Maintenant, il faut bien voir que cette expérience est critiquable de plusieurs manières, et l'une d'entre elles, qui est tout à fait évidente, c'est qu'on ne distingue pas clairement dans cette expérience l'accès à la conscience des conséquences de l'accès à la conscience. Ça, je pense que c'est un point important, mais extrêmement difficile encore dans la recherche actuelle. Oui. Peut-être qu'une partie de ces activations ici, dans la condition consciente, ne font pas partie, disons, du noyau minimum d'activation qui est nécessaire pour avoir un état conscient, mais sont simplement des conséquences de l'accès à la conscience. Évidemment, lorsqu'on a accédé à la conscience, on est capable de se souvenir du mot, on est capable de le nommer dans sa tête, on peut faire toutes sortes d'opérations supplémentaires que le sujet ne fait pas lorsqu'il n'a pas pris conscience de la présence d'un mot. Alors, toute la difficulté dans ce domaine consiste à essayer de trouver une sorte de minimum qui suffit à expliquer l'état conscient du sujet. Et dans ce domaine, une expérience extrêmement intéressante qui a fait date est celle de Lau et Passingham, en PNAS, en 2006. Ils ont pris ce problème à bras-le-corps, essayé de trouver des conditions dans lesquelles le sujet avait exactement le même comportement, il faisait la même chose, mais il le faisait dans un cas avec pleine conscience et dans l'autre cas avec moindre conscience, avec un certain nombre d'essais non conscients. On essaie de créer une différence de conscience sans différence de comportement. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Eh bien, c'est possible parce qu'il y a des phénomènes comme le blind sight, la vision aveugle, ou l'amorçage subliminal, c'est-à-dire que le traitement non conscient peut avoir des effets sur le comportement qui sont identiques à ceux d'un traitement conscient. Alors, dans le détail, l'expérience de Lau et Passingham consiste à présenter donc, des stimuli visuels losanges ou carrés, masqués après un certain délai, par un masque ici, au cours d'une expérience d'IRM fonctionnelle. Et dans une première expérience, en analysant uniquement le rapport des sujets, hein, il force le sujet à répondre à deux questions à chaque essai. Premièrement, essayez de deviner est-ce que c'était un carré ou un diamant. Deuxièmement, dites-moi si vous avez vu le stimulus ou si vous avez simplement essayé de deviner quel était le stimulus. Donc la première question est une question objective, la deuxième question est une question subjective. Eh bien, Lowe et Passingham, dans une première expérience comportementale, montrent que ces deux mesures ne sont pas parfaitement corrélées entre elles. Elles sont en partie corrélées, mais pas parfaitement. Donc vous voyez ici, on fait varier la durée qui s'écoule entre le début du stimulus cible et le début du masque, ce qu'on appelle le SOA dans notre jargon, le stimulus onset asynchrony. Vous voyez que 0 est ici, on peut même faire des valeurs négatives où le masque apparaît avant la cible. Et le phénomène classique de masquage, c'est que lorsque le masque apparaît après la cible, eh bien, la visibilité du stimulus, qui est la courbe en pointillé, le pourcentage de réponses vues, subjectives, s'écroule et ensuite remonte à des durées plus longues. Mais ce qui est très intéressant dans l'expérience de Lowe et Passingham, c'est que la courbe des performances objectives ne suit pas exactement la même forme, en sorte qu'il est possible de trouver des valeurs qui sont indiquées ici, vers 33 millisecondes et vers 100 millisecondes, où vous avez la même performance objective, mais pas la même visibilité. C'est-à-dire que vous voyez ici que la performance objective reste très bonne, alors que la visibilité s'est écroulée beaucoup plus. Donc on est dans ce domaine, évidemment, du traitement subliminal d'information. Ils appellent ça le blind sight, la cécité aveugle. Évidemment, c'est un phénomène relatif, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'essais où le sujet voit le stimulus, mais ces performances vont encore au-delà de ce qui pourrait être prédit sur la base de la visibilité. Donc Lowe et Passingham choisissent ces deux points ici, et ils ajustent. Alors, il y a toute une procédure expérimentale qui est un petit peu sophistiquée, qui permet d'ajuster en temps réel les stimuli pour qu'on reste autour de ce point perceptif. Vous voyez que, pour ce qui est du jugement à choix forcé, carré ou diamant, les performances sont strictement égalisées, alors que, pour ce qui est de la conscience, awareness, ici, eh bien, vous voyez que l'une des conditions, la condition à SOA le plus long, conduit à une plus grande visibilité des stimuli que l'autre. Donc, même performance, mais visibilité variable. Il faut bien comprendre que ça n'est pas un contraste parfait entre stimuli visibles et stimuli invisibles, c'est un contraste entre deux conditions expérimentales où il y a un petit peu plus d'essais visibles dans une condition que dans l'autre. Donc, ça limite un tout petit peu la puissance statistique de ce test, mais par contre, il est extrêmement bien contrôlé. Alors, les résultats sont simples. Il y a une région cérébrale qui montre la différence entre la condition où il y a plus de visibilité et la condition où il y a moins de visibilité, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Vous voyez ici sa courbe d'activation, ce n'est pas absolument convaincant, hein. Les données ne sont pas aussi stables qu'on le souhaiterait, mais il y a effectivement un petit peu plus d'activation dans les essais à SOA long où le sujet rapporte avoir plus de visibilité. On pourrait critiquer ces résultats en disant qu'il s'agit uniquement d'une comparaison de stimuli qui sont après tout extrêmement différents. On n'est pas exactement dans une condition d'égalisation ou de minimisation des différences entre stimuli vus et stimuli pas vus. Mais Lowe et Passingham rajoutent une analyse qui est extrêmement intéressante. Ils analysent uniquement les essais à SOA court, où il y a une faible visibilité. Et là, ils montrent que l'activation de la même région corrèle avec le pourcentage d'essais qui est vu par les sujets à travers les différentes personnes. Donc chacun de ces points ici représente un des participants de l'expérience, et vous voyez que plus les participants rapportent avoir vu les stimuli dans cette condition à SOA court, plus l'activation de cette région est grande. Et ici, il s'agit d'une situation à stimulus constant. Donc, vous voyez que le raffinement expérimental, ici progressif, conduit à converger vers une seule région cérébrale. C'est peut-être un peu caricatural. Je pense que la puissance de cette expérience est un petit peu en jeu, mais montre bien que cette région donc, du cortex préfrontal a l'air d'être un bon prédicteur du fait que le sujet ait vu ou n'ait pas vu les stimuli. Et les autres régions ont disparu de l'écran, en quelque sorte, peut-être parce que, précisément, les paramètres de comportement du sujet sont extrêmement bien ajustés entre les deux conditions expérimentales. Alors, je vais juste souligner que cette conclusion que l'activation du cortex préfrontal et parfois l'amplification des régions sensorielles correspondantes, ce sont des phénomènes qui maintenant dans la littérature expérimentale se retrouvent de façon extrêmement régulière, et pas seulement dans la modalité visuelle mais également dans d'autres modalités de stimulation. Ici, c'est une expérience très récente menée par Sepide et Sadagiani avec Andreas Kleinschmidt à Neurospin, et dans lequel ils ont présenté des stimuli auditifs identiques. C'est le même stimulus, mais ces stimuli sont choisis pour être précisément au seuil. Ils sont présentés de façon extrêmement rare au cours d'une longue expérience d'IRM fonctionnelle, et tout est fait pour que la moitié de ces stimuli environ soit détectée par le sujet et l'autre moitié n'est pas détectée par le sujet. Dans le contexte, vous le savez, où l'IRM fait du bruit, et donc ce n'est pas si facile de détecter les stimuli auditifs si ils sont présentés au seuil de perception. Vous voyez que l'activation auditive existe lorsque les stimuli sont présentés mais ne sont pas détectés, l'activation auditive est amplifiée et il y a une activation supplémentaire extrêmement intense de régions du cortex préfrontal, dorsolatéral et du cortex pariétal inférieur, des deux côtés. D'ailleurs, je ne montre que l'hémisphère droit ici, mais quelque chose de très similaire se produit dans l'hémisphère gauche, avec également activation de régions plus antérieures dans le cortex temporal lorsque le sujet détecte la présence de la cible auditive. Donc on retrouve ce phénomène d'amplification et d'accès à des réseaux préfrontaux pariétaux à longue distance. Ce qui intéressait également Sepideh Sadadjani, vous voyez, c'est qu'il y a des différences avant même le stimulus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un phénomène extrêmement intéressant sur lequel l'équipe d'Andreas Kleinschmidt se penche beaucoup et pas mal d'autres collègues également. C'est la possibilité que des fluctuations de l'activité spontanée du cerveau dans l'état de repos soient des prédicteurs de la prise de conscience ultérieure d'un stimulus. Et que si le cortex auditif est dans un état approprié, qui peut être dépolarisé, en tout cas qui est préactivé ici, eh bien, on va augmenter les chances de percevoir le même stimulus. Il y a maintenant beaucoup de résultats expérimentaux qui vont dans ce sens-là, qui montrent que l'activité spontanée biaise la perception de stimuli extérieurs quand ceux-ci sont choisis, évidemment, pour être ambigus, proches du seuil, etc. Des résultats similaires ont été rapportés dans la modalité tactile, en particulier par Bolli, les collaborateurs, dans PNAS en 2016, un très joli papier, et surtout dans la modalité tactile, des travaux remarquables effectués par Ranulfo Romo chez le singe macaque. J'en parle très brièvement. Il est possible dans la modalité tactile de présenter des vibrations tactiles sur la peau et de changer l'amplitude de ces vibrations de manière à tracer une courbe qui ressemble à un seuil perceptif, vous voyez, qui a un niveau d'amplitude de vibration qui devient perceptible par le sujet. Et l'équipe de Ranulfo Romo, très nombreux collaborateurs, notamment La Fuente, ont ensuite enregistré au fil des années dans de nombreuses régions cérébrales différentes pertinentes pour cette tâche, depuis le cortex somatosensoriel primaire jusqu'à l'aire somatosensorielle secondaire. Et vous voyez ensuite un certain nombre de régions impliquées dans la décision dans le cortex préfrontal et l'aire motrice supplémentaire. Et j'anticipe un tout petit peu sur le cours de la semaine prochaine où on verra aussi la dimension temporelle de ces activations. Mais juste pour vous montrer sur ce graphe ici, vous voyez, les différentes couleurs correspondent aux différentes aires cérébrales dans lesquelles ces enregistrements sont faits chez le singe. Et vous avez la dimension temporelle des activations qui est ici, la latence des réponses des différents neurones. Et sur l'axe vertical, vous avez la capacité de prédire pour un stimulus qui est présenté au seuil, qui est rigoureusement constant, est-ce que le singe va rapporter la présence du stimulus ou pas. Donc, le score est 50% lorsque, sur la base de l'enregistrement électrophysiologique, on n'arrive pas à savoir si le singe va rapporter avoir vu, ou plutôt perçu ou pas, le même stimulus tactile. Le stimulus est rigoureusement identique. Alors, ce que montrent toutes ces années, je vous montre juste un de ces graphes ici, c'est que dans l'aire somatosensorielle primaire, il n'est pas possible, le signal est identique, il n'est pas possible de faire la différence entre les essais conscients et les essais non conscients. Dans tous les cas, on voit une volée d'entrée qui est inchangé et qui ne prédit pas encore si il va y avoir perception consciente ou pas. Bon, si tant est qu'on peut parler de perception consciente, mais je crois qu'on peut ici tout simplement de détection chez le singe. Vous voyez que si on avance dans le temps, on progresse dans ces aires cérébrales liées au traitement des informations tactiles, mais on n'a toujours pas de capacité de prédire si le singe va rapporter la présence du stimulus ou pas, et ça n'est que lorsqu'on va dans les régions plus antérieures du cerveau, dans le cortex préfrontal ventral ici et mésial, qu'on commence à avoir une capacité de prédiction extrêmement forte de ce que va rapporter l'animal. Donc on a un phénomène tardif qui nécessite la progression du traitement de l'information jusque dans les aires préfrontales. Et que ça, c'est une grande constante à travers toutes ces expériences. Je voulais vous montrer une dernière expérience qui est extrêmement intéressante parce qu'elle généralise ces résultats à une modalité qui n'est plus sensorielle maintenant, mais qui est une modalité de contrôle moteur. On peut contrôler nos actes de façon consciente, mais ce que montrent ces travaux, j'en avais un petit peu parlé l'année dernière, c'est qu'il est possible aussi d'avoir un contrôle non conscient de nos actes. Et donc, dans ce domaine aussi, du contrôle de l'action, on peut créer des contrastes minimaux entre un contrôle moteur conscient et un contrôle moteur non conscient. Et Simon Van Hal, qui est un thésard dans le groupe de Victor Lameux à Amsterdam, m'a autorisé à présenter ces données qui sont extrêmement récentes, qui ne sont pas encore publiées, qui portent sur un paradigme qui crée exactement ce type de contraste. L'expérience est assez simple, toujours la même idée. On va présenter un stimulus visuel, donc carré ou losange, qui va être masqué, et on peut présenter un délai de masquage court Ici, avec une courbe en U de masquage qui fait que à ces délais courts, il y a en fait un masquage assez faible qui se produit et on perçoit ces stimuli régulièrement. Et puis, on peut les présenter avec une durée un petit peu plus grande, ici de 50 millisecondes, qui conduit à un masquage très optimal où les sujets ne voient pas du tout les stimuli. Donc, on contraste stimuli faiblement masqués, stimuli fortement masqués. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est demandé au sujet. Dans cette tâche ici, le sujet sait que s'il voit le losange, il ne doit pas appuyer sur le bouton, ce qu'on appelle une situation no-go. Il faut interrompre son action standard si on voit le losange. Si on voit le carré, par contre, ou si on ne voit rien du tout, à ce moment-là, l'instruction, c'est d'appuyer sur le bouton. Donc évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les essais avec un carré ou avec un losange, et en particulier dans les essais subliminaux. Dans les essais subliminaux, le sujet, la plupart du temps, appuie sur le bouton, puisqu'il n'a pas vu qu'il y avait un losange. Mais ce que montre Simon Van Hal, c'est qu'il y a un léger ralentissement de la réponse qui se produit, qu'on voit très bien ici, qui n'est pas si léger que ça, c'est quand même quelques dizaines de millisecondes, donc c'est un effet assez fort au sens chronométrique du terme. Le sujet est ralenti, est inhibé par la présence d'un indice que les instructions lui ont apprises, est un indice qui demande d'inhiber le comportement. Donc il peut y avoir une forme d'inhibition, une tentative de contrôle du comportement sur une base non consciente, puisque tous ces essais ici sont non conscients. Et que la distribution des temps de réaction est extrêmement intéressante. Ici, vous avez donc le nombre d'observations pour un certain temps de réaction donné. Typiquement, on a une moyenne de temps de réaction de l'ordre de 400 millisecondes ici. Vous voyez que la présentation du losange crée une sorte d'indentation dans la courbe des temps de réaction. Les temps de réaction se ralentissent soudainement au-delà d'une certaine valeur, de l'ordre de 250-300 millisecondes ici, qui est toujours la même, qui correspond à une sorte d'entrée en activité d'un signal d'inhibition. Et l'année dernière, j'avais souligné d'autres expériences très similaires de Simon Van Hal qui montraient qu'au niveau des potentiels évoqués, si on comparait les essais avec inhibition aux essais sans inhibition, on observait des différences au niveau d'une onde frontale P3A qui suggérait qu'on pouvait avoir une activation frontale sans conscience dans cette situation de contrôle cognitif. Alors peut-être vous êtes un petit peu surpris, comme je l'étais moi-même quand on a découvert ces résultats, parce que ça donne l'impression que vous pouvez avoir une activation des régions frontales et une activation des systèmes de contrôle exécutif sans conscience, qui va en quelque sorte à l'encontre, en apparence, de la synthèse que j'ai tenté de vous proposer dans les premiers cours. Eh bien, le nouveau travail de Simon Van Hal montre qu'en réalité, il n'y a pas de conflit et que ces résultats sont tout à fait compatibles avec la synthèse que je vous ai proposée. Simplement, si on regarde en IRM fonctionnel, lors de la situation de contrôle non conscient, eh bien, effectivement, il y a des aires antérieures du cerveau qui sont concernées, mais c'est un tout petit réseau bien particulier qui est activé, qui est engagé dans cette situation de contrôle cognitif non conscient. Vous voyez qu'il implique la pré-SMA, une aire motrice supplémentaire dont on sait l'implication dans le contrôle de l'action, ainsi que l'insula antérieure au niveau de sa jonction avec le cortex frontal inférieur qui est également impliqué dans le contrôle de l'action. Et uniquement dans ce petit réseau-là, en non-conscient, alors que dans la même situation de contrôle conscient, vous voyez que ce réseau est répliqué, donc ces aires font partie du réseau conscient, mais ces aires sont amplifiées, vous voyez que le signal est à nouveau très nettement amplifié ici, pratiquement doublé dans l'insula antérieure, également un petit peu dans la pré-SMA, et surtout qu'il y a une expansion de l'activation lors du contrôle conscient dans tout un vaste réseau qui, là encore, reproduit presque exactement les images que je vous ai montrées auparavant, cortex préfrontal dorsolatéral, cortex pariétal inférieur. Et également, extension au cortex cingulaire antérieur. C'est très intéressant de comparer ces deux images ici et de voir que la situation non consciente active des aires qui sont plus en arrière, qui sont plus automatiques, et la situation de contrôle conscient s'étend à un réseau plus antérieur, plus élaboré, si vous voulez, d'un niveau, un réseau de contrôle supérieur qui implique le cortex cingulaire. Donc, pas de contradiction, simplement une observation extrêmement intéressante, c'est qu'on peut avoir activation d'aires du cortex frontal sans conscience, mais pas n'importe quelles aires, un petit réseau bien particulier qui serait impliqué dans une sorte de contrôle automatique, si on peut dire. Ce n'est pas incompatible de parler d'une situation de contrôle exécutif automatique, c'est ce que suggèrent ces expériences qui sont très belles. Mais on continue de voir une différence très forte avec les situations de contrôle conscient. Alors, dans le dernier quart d'heure de ce cours, je voudrais vous parler d'une direction de recherche nouvelle en IRM fonctionnel qui prend une ampleur de plus en plus grande, qui est très largement fondée sur les travaux d'une personne, John Dylan Haynes, qui a travaillé avec Gerhard Ries et publié beaucoup dans ce domaine dans les 5 dernières années, et qui conduit à poser une exigence supplémentaire pour les corrélats neuronaux de la conscience. Ce que je vous ai montré, les expériences que je vous ai montrées depuis les 45 dernières minutes sont des expériences où on contraste la perception consciente versus la non-perception d'un stimulus. Et John Dylan Haynes critique cette différence, même s'il considère que c'est intéressant, évidemment, hein, mais il dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous contrastez encore des états qui sont trop différents. Vous voyez ? Dans cette différence entre percevoir consciemment et ne pas percevoir, il peut y avoir énormément de phénomènes qui n'ont rien à voir avec un code neural conscient du stimulus particulier qui a été présenté. Il peut y avoir des différences, par exemple, liées à l'attention, liées à la vigilance, liées à l'entrée en activité de régions supplémentaires qui sont impliquées dans le rapport particulier qui est fait par le sujet, et tout ceci ne constitue pas le code minimal pour un contenu conscient. Alors, ce que nous dit John Dylan Haynes, c'est qu'il faut essayer de montrer, par imagerie cérébrale, que le corrélat de conscience que l'on propose constitue un code neural de l'état de conscience du sujet. C'est-à-dire que parmi les aires que je vous ai montrées, il va y en avoir certaines, peut-être toutes, peut-être un sous-ensemble, qui contiennent dans leur état d'activité un code qui, si on arrivait à le décoder, nous dirait, voilà, le contenu de la conscience du sujet, c'est tel ou tel objet, tel visage, tel mot, etc. Et c'est une exigence qui est redoutable parce qu'avec l'imagerie cérébrale, comme vous le savez, on est très loin de voir les populations de neurones elles-mêmes. Mais des avancées dans la technologie de l'imagerie permettent maintenant d'appliquer effectivement des techniques de décodage au niveau des micro-activations qui se produisent dans chacun de peut-être quelques centaines de voxels et d'essayer d'inférer à partir de cet état d'activité quel est le contenu mental du sujet. Et ce que John Dylan Haynes nous dit, c'est que si on arrivait à trouver un corrélat neuronal de la conscience, on devrait pouvoir réaliser cette opération de décodage uniquement pour le contenu qui est celui du contenu de la conscience à un instant donné. Et donc, c'est ce qu'il appelle un code total et inversible. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver un algorithme de décodage qui, partant de l'activation, reconstitue l'état de conscience du sujet. Alors, et rien que celui-ci, pas plus, évidemment. Donc, le code observé devrait... si on propose réellement un code neural pour la conscience, doit présenter le même degré d'invariance que le contenu conscient du sujet. Ça, c'est une exigence difficile, parce que, par exemple, lorsque nous déplaçons les yeux, eh bien, nous avons l'impression que la scène visuelle reste invariante, mais au niveau des aires visuelles primaires, l'ensemble de l'image glisse, évidemment, la région de la fovéa est amplifiée, les autres sont diminuées, tout ceci, nous n'en avons pas conscience. Au niveau conscient, il y a une invariance pour la position des yeux, qui devrait être visible au niveau du code neural conscient. Le code conscient doit préserver les relations de similarité subjective entre les contenus conscients. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont le stimulus objectif varie, ce qui compte à ce niveau-là, c'est une variation qui correspond au contenu subjectif du sujet. Donc, en particulier, le code ne devrait pas coder les différences physiques que le sujet ne perçoit pas. Tout ceci constitue une liste de critères pour identifier un code conscient. Et inversement, on doit coder l'objet perçu, même s'il s'agit d'une fausse perception, même s'il s'agit d'une hallucination, par exemple. Alors tout ceci conduit à un programme de recherche assez riche, qui va au-delà de la simple différence entre essai perçu et essai non perçu, mais qui essaye de décoder l'objet particulier qui a été perçu à un instant donné. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples de tentatives de recherche dans cette direction-là. Vous voyez bien que ce sont des recherches extrêmement récentes et que ce projet n'est pas encore complètement abouti. Hein. Mais une expérience de Nancy Kanwisher avec Williams dans Nature Neuroscience illustre bien le concept. Vous voyez, dans cette expérience, on présente des images qui peuvent appartenir à 3 catégories différentes. Il y a les spiky, les objets pointus, les smoothie, les objets lisses, et il y a les objets cubiques. Et il y en a toute une variété au sein de chaque catégorie. Et la présentation de ces objets est extrêmement brève, 33 millisecondes, et masquée. Ce qui fait que certains essais sont vus par les sujets, d'autres essais ne sont pas vus par les sujets. Les performances des sujets varient considérablement d'un essai à l'autre. Le sujet doit essayer d'identifier la catégorie du stimulus qui est présenté. Alors, Nancy Kanwisher propose d'essayer de décoder à partir de l'imagerie cérébrale du pattern d'activation cérébrale dans une région donnée quel était l'objet qui était présenté au sujet. Et pour ce faire, elle propose d'utiliser un index qui est un petit peu particulier, qui est simplement la corrélation entre l'activation observée lors des essais pairs et lors des essais impairs. Donc s'il y a un code reproductible, c'est-à-dire que la présentation, par exemple, des objets pointus conduit à activer une certaine forme sur le cortex visuel, eh bien, lors des essais pairs et lors des essais impairs, on doit retrouver cette forme, et donc il doit y avoir une corrélation positive entre les deux patterns d'activation observés. Donc c'est ça la mesure qu'elle propose pour regarder s'il existe un code reproductible au niveau du nerf cérébral donné. Et elle montre ce phénomène extrêmement intéressant. Hein. Si on regarde les aires rétinotopiques du cortex, eh bien, il y a un code, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive ici, qui vous indique que l'activation observée pour les spikies, pour les objets pointus, n'est pas la même que l'activation observée pour les objets ronds ou pour les objets cubiques. On peut, sur la base de l'activation qui est observée dans ces régions, faire la différence entre les trois types d'objets. Il y a un code. C'est logique, évidemment, puisque ce sont des aires rétinotopiques qui ont en particulier des informations sur la forme des objets. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce code que l'on voit en imagerie cérébrale, il existe que le sujet répondent correctement à la classification de ces trois catégories, mais également que le sujet réponde incorrectement. C'est-à-dire que même quand le sujet se trompe et dit « je pense que l'objet était pointu », eh bien le cortex visuel, lui, a la bonne réponse. Il n'a pas changé son pattern d'activation. Et le contraste est particulièrement frappant avec une autre région du cortex cérébral, le cortex LO, le cortex latéral occipital, on a vu tout à l'heure dans l'expérience de Green Spector, qui, lui, a un code neural reproductible pour la catégorie d'objets, avec une corrélation positive ici, lors des essais où le sujet répond correctement, mais n'a pas ce code lorsque le sujet ne répond pas correctement. Donc, selon ce critère, la région LO est un meilleur corrélat potentiel de l'état de conscience du sujet, que, en tout cas de l'état d'information du sujet, que le cortex rétinotopique visuel primaire ici. Le cortex visuel primaire a trop d'informations. Le cortex LO semble avoir la même information que celle qui est accessible au sujet pour prendre sa décision consciente. Donc, premier exemple où on va essayer de trouver un type d'activation cérébrale qui correspond tellement étroitement au contenu du sujet que lorsque le sujet n'a pas d'information, eh bien, le code disparaît. Deuxième exemple, décodage de l'objet perçu réalisé par des méthodes de décodage multivariées. Expérience de Sterzer, toujours John Dylan Haynes et Geraint Rees, dans un article très récent, 2008. Ils ont présenté des images de visage ou de maison. Vous savez que dans le cortex visuel, ce sont des stimuli favorisés parce qu'ils conduisent à des activations extrêmement différentes, de régions vraiment macroscopiquement différentes de la voie visuelle ventrale, donc visage versus maison. Et ces visages sont rendus invisibles par suppression binoculaire, c'est-à-dire que le visage ou la maison est présenté dans un œil, et dans l'autre œil, on flash des formes répétées qui effacent la perception consciente des stimuli de l'autre œil. Je vous avais parlé de cette technique dans le cours de l'an dernier. Alors, ça permet donc de créer un contraste entre les mêmes stimuli visage ou maison, suivant qu'ils soient visibles ou qu'ils soient invisibles. Et le premier résultat qui est extrêmement net dans cette expérience, c'est que l'air fusiforme des visages et l'aire parahippocampique des lieux, des maisons, qui répond aux maisons, ont une activation très nette, catégorique, pour leurs stimuli préférés, mais seulement dans le cas conscient, pas dans le cas non conscient. Vous voyez très très bien ici cette activation au visage, mais uniquement pour les visages visibles, et cette activation aux maisons, dans cette région parahippocampique bilatérale ici, uniquement pour les maisons visibles. Il n'y a pas d'activation détectable de ces régions dans la situation non visible. Il y a peut-être des petites différences, mais elles ne sont pas significatives. Par contre, ce que montrent les collaborateurs ici, c'est qu'il est possible, sur la base de la configuration d'activité de ces régions, de décoder si le sujet a objectivement vu un visage ou a vu une maison. Et ce qui se passe, c'est que l'algorithme qui est utilisé va prendre la configuration d'activité de ces régions du cortex visuel et va apprendre, hein, par un algorithme de ce qu'on appelle machine learning, apprentissage par ordinateur, va apprendre quel type de configuration d'activité prédit la présence d'un visage ou prédit la présence d'une maison. Et l'algorithme est fait de façon extrêmement rigoureuse avec un sous-ensemble d'essais qui sert à l'apprentissage du classificateur et ensuite un petit nombre d'essais supplémentaires qui servent de tests et les performances qui sont rapportées par la suite sont les performances donc sur ces essais de test. Alors, vous voyez qu'il est possible, ça c'est évidemment tout à fait évident, il est possible de créer un classificateur qui arrive à classifier les essais visibles, c'est-à-dire qui détecte la configuration d'activation qui prédit si c'est un visage ou si c'est une maison lorsque les images sont visibles pour le sujet. À ce moment-là, on arrive à des performances tout à fait remarquables. 88% de réussite, ça veut dire que pratiquement à chaque essai, vous êtes capable de dire que le sujet a vu une maison ou qu'il a vu un visage. Ce qui est remarquable, c'est que vous arrivez à faire la même chose avec les visages invisibles, les maisons invisibles. Ici, vous avez 63% de réussite, ce n'est pas parfait, mais c'est nettement mieux que le hasard, pour déterminer si le sujet était en train de recevoir une image de maison ou une image de visage, alors même que le sujet, lui, n'a pas d'information. Donc, là encore, on montre que ces régions ont un code que le sujet n'a pas, qui n'est pas dans la conscience du sujet. Simplement, ici, il y a une différence très importante d'activation, une différence très importante aussi dans la qualité du code, et on peut penser que la reproductibilité du code fait la différence entre essais conscients et essais non conscients. Ce qui est intéressant de cette expérience, c'est qu'on peut aussi tester la généralisation d'un apprentissage à l'autre. Donc, si l'ordinateur a été entraîné avec les essais visibles, est-ce qu'il arrive à décoder les essais invisibles ? La réponse est oui, nettement mieux que le hasard. Et dans le sens inverse, s'il est entraîné avec les essais invisibles, est-ce qu'il arrive à décoder les essais visibles ? Également, oui. Et peut-être c'est dans cette condition-là que c'est le plus intéressant, parce que dans cette condition-ci, vous voyez qu'il y a une généralisation complète. Une fois que j'ai appris à décoder les essais invisibles, je décode exactement au même niveau les essais visibles. Ce que ces résultats suggèrent, c'est qu'il existe un code non conscient qui fait la différence entre visage et non-visage, visage et maison, qui est activé donc par les essais invisibles, qui est également activé lors des essais visibles, ce qui permet de généraliser, mais qui est amplifié, qui se traduit par des différences macroscopiques très visibles dans le niveau du signal d'IRM lors des essais conscients. Et donc ici, la trace de la conscience serait, une fois de plus, l'amplification du même code dans des régions sensorielles qui sont pertinentes pour ce niveau de codage catégoriel des stimuli visuels. Ce qui est dommage dans cet article, c'est qu'il n'analyse pas le cerveau tout entier, donc on ne sait pas s'il y a d'autres régions du cerveau qui ont le même type de code, qui permettrait de faire cette différence, et ils ne mettent pas également en corrélation ces régions identifiées avec le reste du cerveau. Ça aurait été très intéressant de voir si l'activation de ces régions est corrélée avec d'autres régions distantes. Bon, ça reste à faire. Je vous signale, juste pour terminer, un article très récent d'un autre groupe, avec Aaron Scourger, qui est actuellement au laboratoire, mais qui a réalisé ce travail à l'époque à Princeton, toujours en IRM fonctionnel, avec un concept très proche, l'idée de décoder visage versus maison simplement dans une condition d'invisibilité un petit peu différente qui est la fusion des couleurs entre les deux yeux. Et si vous présentez des images identiques aux deux yeux, vous allez pouvoir percevoir la présence d'un visage dont les couleurs ici contrastent avec le fond. Alors que si vous présentez des couleurs opposées aux deux yeux, et bien dans les bonnes conditions, la fusion de ces couleurs va faire en sorte que vous perceviez un stimulus homogène, par exemple jaune ici, correspondant à la fusion de ces deux couleurs, et sans percevoir la présence d'un visage. Une des manières, parmi beaucoup d'autres, une fois de plus, de créer un stimulus non conscient. Ici, les yeux reçoivent une information sur un visage qui n'est pas perçu consciemment par le sujet. Eh bien, Aaron Scourger et ses collaborateurs analysent donc ces images d'IRM fonctionnel créées par la présentation à un essai donné d'un stimulus qui peut être perçu consciemment ou qui peut ne pas être perçu consciemment. Ils essayent de décoder ces activations. Alors, la première chose qui n'est pas rapportée dans l'article d'ailleurs, mais que Aaron m'a communiqué, c'est qu'on retrouve ce phénomène d'une amplification de l'activation lors des essais conscients. Donc, si on regarde simplement le signal d'IRM, il est plus fort dans les régions sensorielles pertinentes, pour les visages ou pour les lieux, lors des essais conscients. Toujours ce phénomène d'amplification. Mais au niveau de la classification, il montre qu'il y a effectivement des configurations d'activité, là encore, qui permettent de classifier les essais visibles et les essais invisibles. Vous voyez qu'on arrive, dans les deux cas, à faire une classification qui est meilleure que le hasard. Le hasard serait 50%, vous voyez que là, ici, la classification est quand même assez faible. Probablement parce que ce type de stimuli, qui n'est pas très contrasté, ne conduit pas à des activations extrêmement massives de ces aires sensorielles. Vous voyez qu'on arrive à décoder les essais visibles et les essais invisibles. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'expérience d'Aaron Scourger, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes régions, les mêmes voxels dans le cerveau qui font les deux décodages. Vous voyez que les voxels qui permettent de décoder les stimuli visibles sont un petit peu plus en avant dans la voie visuelle ventrale que les voxels qui permettent de décoder les stimuli invisibles. Et donc, à nouveau, deux concepts, amplification de l'activation, progression de l'activation vers une région plus antérieure lorsque le stimulus est visible. Ce qui est un peu plus difficile à comprendre dans cette expérience, c'est qu'ils font exactement le même travail que celle de Sterzer et collaborateurs, ils ne trouvent pas de généralisation croisée. Ce qui est tout à fait curieux dans l'expérience de Scourger, c'est qu'il n'y a pas de recouvrement apparent entre le code neural pour le stimulus quand il est visible et quand il est invisible, de sorte qu'on ne peut pas généraliser de l'un à l'autre. Ce qui est, vous voyez, pas exactement ce qui avait été trouvé dans l'expérience antérieure de Sterzer. On en est là, ce sont des résultats qui sont parus dans Science il y a seulement quelques semaines. Donc, le but du Collège de France est aussi de vous montrer la recherche en train de se faire. Il y a un conflit apparent entre les deux données. Il y a aussi des zones de convergence dans ce concept d'amplification. Moi, je pense qu'on peut conclure dans ce type de données que le code qui est activé par les stimuli invisibles est prédominant dans les régions postérieures, que l'accès à la conscience donc, rend les activations plus fortes, ça c'est une constante dans toutes les expériences, moins variable, c'est un des points qui est particulièrement intéressant dans l'expérience de Scourger, c'est qu'il montre qu'il y a une variabilité de l'activation d'un essai à l'autre dans les essais invisibles, alors que cette variabilité est beaucoup moindre dans les essais visibles, donc moins de variabilité dans les essais conscients, et des régions plus antérieures dans la voie ventrale visuelle. Alors, l'idée d'une moindre variabilité est intéressante parce que ça peut correspondre à ce qu'il y avait dans les simulations que je vous ai présentées, c'est-à-dire la convergence vers un attracteur. L'idée qu'il y a un attracteur cérébral, réverbérant, tout ou rien, donc avec un bassin d'attraction reproductible lors des essais conscients, alors que dans les essais non conscients, eh bien, la variabilité serait beaucoup plus grande parce qu'on n'est pas encore tombé dans cet attracteur global. C'est une idée qui est proposée ici par Aaron Scourger pour la première fois. C'est pour ça, très largement, que la revue Science s'est intéressée à cette proposition. C'est une idée intéressante, nouvelle. Il faudra voir si elle résiste à l'examen ou pas. Mais on verra la semaine prochaine qu'il y a pas mal de données qui suggèrent effectivement que lors d'un accès à la conscience, il y a ce phénomène d'ignition qui se produit, qui stabilise en quelque sorte la représentation. Et ça n'est pas le cas lors des essais invisibles ou non conscients. Je termine par une dernière expérience que je trouve particulièrement belle. Je m'excuse de vous bombarder de ces informations, mais ça vous permet de voir un petit peu le style d'expérience qui est fait actuellement. Alors là encore, c'est une expérience extrêmement récente, 2007. Elle porte sur la perception auditive et je ne pense pas qu'elle soit connue de John Dylan Haynes, mais elle réalise exactement les conditions qu'il souhaite, c'est-à-dire une dissociation entre stimulus objectif et stimulus subjectif perçu par le sujet et essayer de déterminer quelles régions ont le code neural objectif et quelles régions ont le code neural subjectif. Alors, cette expérience est très sympathique. Elle fait appel à une illusion classique, s'appelle l'illusion de McGurk, que peut-être certains d'entre vous ont déjà expérimenté. Vous pouvez aller voir sur Internet pour des exemples. L'illusion de McGurk consiste à voir quelqu'un en train de parler, et si la personne est en train de dire « pas » et que vous entendez donc, le son « pas », mais que la bouche, elle, le film que vous voyez, correspond à la production d'un autre son, qui est le son K, eh bien, votre perception va fusionner ces deux informations visuelles et auditives incompatibles, et si les conditions sont les bonnes, vous allez percevoir un son intermédiaire, qui est le son TA. Donc, il se place dans ces situations où auditivement, c'est PA, visuellement, c'est K, et subjectivement, c'est TA. Oui, c'est magnifique, mais ça permet de dissocier complètement les trois paramètres. Alors ensuite, ils vont utiliser ce qu'on appelle la repetition suppression, le fait de répéter le même stimulus, et vous voyez que suivant les conditions, le stimulus précédent peut répéter soit la syllabe auditive, donc on va présenter un pas auditif plus un pas visuel, et la seule chose qui va être répétée, c'est la stimulation auditive, mais ni la stimulation visuelle, ni la perception du sujet. Ou bien alors on va précéder par des essais K auditifs, K visuels, donc cette fois-ci c'est la présentation visuelle qui est répétée, mais ni l'auditif, ni l'aspect subjectif perceptif. On peut présenter un TA, alors ça c'est très intéressant, si on présente un TA auditif et un TA visuel, vous voyez qu'on ne répète ni la stimulation auditive, ni la stimulation auditive, mais le sujet subjectivement a l'impression que c'est la même syllabe qui lui a été présentée deux fois. Et enfin, bien sûr, on peut présenter exactement le même stimulus qui consiste donc en un mélange de pas auditif et de cas visuel et qui est perçu comme ta. Et donc là, tout est répété, toutes les informations sont répétées. Alors, l'expérience consiste à voir donc à quels paramètres différentes régions cérébrales sont sensibles. Et les résultats sont assez élégants. Si vous regardez dans les régions auditives, ici, du cortex temporal supérieur, eh bien, vous trouvez que ces régions sont sensibles à la répétition du paramètre auditif objectif. Vous voyez qu'il y a peu d'activation lorsqu'on répète exactement le même stimulus, donc à la fois subjectif et objectif auditif. Il y a également peu d'activation lorsqu'on répète le même stimulus auditif, même s'il conduit à un percept différent. Et inversement, si vous présentez des stimuli qui conduisent au même percept tas, mais objectivement, ça n'est pas du tout le même stimulus, eh bien, vous avez une activation beaucoup plus grande. Donc, vous n'avez pas ce phénomène de répétition, de suppression par la répétition. Donc, cette région code pour les aspects objectifs du stimulus auditif, même si le sujet ne les perçoit pas. Très intéressant de contraster ça avec d'autres régions qui sont situées dans les régions frontales inférieures gauche et dans les régions plus antérieures du cortex temporal. Toujours cette idée de devoir aller dans des régions plus antérieures et qui impliquent le cortex frontal. Et là, vous trouvez des régions qui interrompent leur activation, qui réduisent leur activation uniquement lorsque le sujet a entendu subjectivement deux fois la même chose, que le stimulus soit identique ou que le stimulus soit très différent, mais conduise au même percept subjectif. Vous voyez que le code neural dans cette région est un code neural qui correspond à la perception subjective du sujet, hein, ce qui n'est pas le cas dans les aires sensorielles plus précoces. Alors je trouve cette expérience particulièrement élégante parce qu'elle dissocie bien les paramètres et elle montre que les aires précoces n'ont pas le bon code. Le code qui est présent dans les aires précoces n'a pas cette propriété de fusion auditive et visuelle qui est celle qui correspond à notre perception auditive. Mais ce qui est tout à fait frappant dans cette expérience, c'est que vous n'avez pas l'impression de percevoir un stimulus de haut niveau. C'est vraiment la perception auditive qui est testée ici. La perception auditive, subjective, sans que nous en ayons conscience, est le résultat d'une intégration sensorielle de deux modalités, visuelle et auditive. Elle se produit dans des aires de plus haut niveau du cortex temporal et du cortex frontal inférieur. C'est le résultat de ce calcul de fusion donc de deux modalités qui accède à notre conscience. Et c'est un résultat, on le voit ici, qui est calculé dans des aires supérieures. Alors je trouve quelque part cette expérience dans la modalité auditive va plus loin que beaucoup d'expériences dans la modalité visuelle qui, pour l'instant, n'ont pas encore complètement réussi à établir cette dissociation entre subjectif et objectif. Voilà, je termine là-dessus. Donc, je pense qu'on a vu aujourd'hui un certain nombre de corrélats de la conscience en IRM fonctionnel avec des contrastes qui sont bien faits, qui sont minimaux, qui, de plus en plus minimaux, je dirais, au fil des expériences. Et on a vu que l'amplification de l'activation sensorielle, la progression de l'activation vers des régions sensorielles plus antérieures, l'activation additionnelle de régions distribuées du cortex préfrontal et pariétal inférieur, la mise en corrélation de ces régions à longue distance, étaient tous des corrélats possibles de l'accès à la conscience du sujet. La semaine prochaine, nous examinerons plus en détail un paramètre qui ne peut pas être vu par l'IRM fonctionnel, qui est le déroulement temporel de l'activation. Donc au lieu d'une vision statique avec laquelle je vous laisse aujourd'hui fondée sur l'IRM fonctionnel, la semaine prochaine, nous verrons dans le détail, au fil du temps, comment se passe cette transition entre un stimulus conscient et un stimulus non conscient. Merci beaucoup de votre attention.